jour, ou plutôt bonsoir, ou plutôt bonjour, ne serait-ce l'heure du jour à laquelle vous m'écoutez, mais oui, c'est bien moi, je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous faire, vous proposer une nouvelle saison de votre émission sur le ciné, car oui, Showtime, saison 8, épisode 1, c'est parti! On y est, la saison 8 de Showtime est lancée, 8 ans de Radio Larzac, et j'espère que ça va bien continuer, mais j'en dis pas plus, voici pour vous le synopsis de ce qui vous attend pour le reste, la suite de l'émission. Donc au programme de ce premier épisode de la saison 8 de Showtime, l'actu ciné pour changer, suivi ensuite des suggestions pour continuer avec non pas un, mais deux avis. Le premier avis du mois portera sur le film Knight of Badass Dome. Et le second, lui, sera sur le film You Might Be the Killer. Mais je n'en dis pas plus. Showtime saison 8, épisode 1. On y va! Comme vous avez très certainement pu le remarquer, cette saison 8 ne sera pas en direct, hein, ça va être le principe du faux direct, hein, je vais le désamorcer un petit peu plus après très certainement, mais oui c'est du direct faux direct, je garde le principe du comme si j'étais en direct, en gardant quand je bute sur certaines phrases ou quoi que ce soit, ça donne un petit peu plus d'authenticité. Après, ça c'était déjà pour l'émission, pour vous donner le topo d'émission. Pour ce qui est des places ciné, il faudrait que je me rencarde avec le directeur du cinéma de Millau pour voir ce qu'il peut en être. Ensuite, je pense que je vais beaucoup en parler aussi tout du long de l'émission, mais oui, durant cet été, j'ai lancé une chaîne YouTube hein, qui parle cinéma et pop culture, un petit peu comme Showtime, hein, qui vous parle cinéma et pop culture. Du coup, je vous invite à aller la voir, hein, à aller la regarder, je fais un petit peu ma promotion, bon, je le redirai un petit peu après, mais oui, je compte aussi reparler de l'émission et de Radio Larzac, du coup, dans la chaîne YouTube. Voilà, bon... Après, c'est vrai, on va pas s'en cacher, que le ciné, l'actu ciné, que ce soit sortie film ou actualité, mais c'est pas trop chaud ça. Mais bon, je vais quand même me débrouiller pour vous proposer 2-3 petites choses. Hein. C'est pourquoi que je vais pas plus en dire, pas plus vous en spoiler hein, sur la finalité de l'émission et que je vous propose que l'on passe tout de suite à l'actualité.
L'actu du mois.
Alors, pour ce qui est de l'actu ciné, on va pas s'en cacher, hein. Mais dernièrement, avec toute cette pandémie de Covid-19, de coronavirus, l'actu ciné, et du moins les sorties ciné, c'est vraiment pas bien folichon tout ça. Il y a beaucoup de films qui ont été reportés en 2021, l'année prochaine, ou même pire, en 2022, c'est vous dire. Mais je pense que le meilleur des films, celui dont je tenais à vous parler ce mois-ci, c'est Mulan. Mulan de Disney. Mulan de Nicky Calvo qui devait sortir tout d'abord aux alentours du 25 mars 2020, mais bon, dont la sortie a été repoussée à cause de toute cette histoire de pandémie. Et qui a connu ensuite beaucoup de reports. Hein. D'abord, on a parlé d'une éventuelle sortie le 22 juillet, puis le 19 août, puis indéfiniment, jusqu'à ce que finalement Disney dise « Ah, ça va être finalement sur Disney+, notre plateforme de streaming en VOD, Video On Demand, hein, un petit peu le Netflix, mais de Disney, hein, que vous pourrez voir le film. » Sauf que, si nous, en France, ça va être reporté au 4 décembre, et qu'on pourra le voir sans frais supplémentaires, ça n'a pas été le cas dans les autres pays, hein, parce que, mettons, aux US, il est sorti quand même très récemment, hein, le 4 septembre de cette année, mais avec le superbe coût de 30 dollars, hein, 29,99 dollars. Hein. Mais en gros, même si vous étiez abonné à Disney+, c'est-à-dire en payant votre petit abonnement de 6,99 $, si je ne dis pas de bêtises, bah, vous rajoutez la belle somme de 29,99 $ et pouf, vous aviez un accès illimité à ce Mulan. Et malheureusement, c'est que ça a bien payé pour Disney, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais soi-disant, il se dirait que les bénéfices seraient plus élevés qu'escomptés. Hein. C'est vous dire, j'ai pas réussi à trouver de chiffres exacts, mais par rapport au film Tenet de Christopher Nolan qui est sorti cet été et qui devait sauver un petit peu le cinéma, ben, les chiffres seraient beaucoup plus élevés. En gros, Mulan aurait fait mieux que Tenet. C'est à se poser des questions. Tenet qui se serait un petit peu ramassé de ce que j'ai cru comprendre malgré de bonnes critiques. Bon, ça après, c'est du Christopher Nolan, hein. Ça plaît pas. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir et j'étais pas plus hypé que ça. Enfin bref. Donc, ouais, je pense que tout ça peut vraiment amener une question sur la sortie des films grand public, type à visibilité internationale comme les Disney et ou autres, au cinéma, parce que ça fait se poser la question et ça fait un peu peur pour la suite et pour l'avenir des salles. Voilà, moi c'était une sorte d'actu coup de gueule parce que moi j'y tiens mes petites salles de cinéma, franchement ça fait de bonnes sorties. Là c'est tristouné qu'il y ait moins de films que ça à l'affiche et du coup que ça empêche d'y aller, hein. Mais ouais, ça fait se poser beaucoup de questions sur l'avenir de l'exploitation des films, du cinéma, etc. Moi, je vous renvoie la question, hein, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des sorties des films au ciné? Hein, n'hésitez pas à me faire part de vos avis à mon adresse mail, hein, showtime.radiolarzac@gmail.com. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu. Et je comprends tout à fait ce directeur de cinéma qui est allé à batte de baseball sur la PLV de Mulan qu'il y avait dans son cinéma. Voilà, ceci étant dit, moi, je vous propose de passer aux suggestions.
Les suggestions.
Alors, ce mois-ci, pour les suggestions, je vais vous parler comics. Hein, franchement, là, j'ai quatre comics entre les mains. Ce sont le renouveau de la série des X-Men. X-Men, ces super-héros mutants qui sont nés dans les années 60, si je ne me trompe pas, de la plume de Stan Lee et Jack Kirby, et qui nous sont arrivés début des années 2000, fin années 90, début 2000, sous la direction de Brian. C'est pas Brian Tyler, Brian, je l'ai plus le Brian, mais c'est un Brian, hein. Mais oui, ils sont arrivés au cinéma à ce moment-là, et c'est un peu grâce à eux aussi qu'est arrivée la mode des super-héros au cinéma. Et en comics, ben, la licence a connu un petit peu des hauts et des bas. À se demander si c'était pas un petit peu le fait que ce soit la Century Fox à l'époque qui avait les droits d'auteur de nos héros mutants. Mais ouais, dernièrement, les comics X-Men, c'était pas du tout ça. Et heureusement est arrivé donc Jonathan Hickman à la barre pour nous conter ben justement House of X et Powers of Ten. Ce sont quatre numéros que vous pourrez trouver, ce sont des comics soft cover que vous pourrez retrouver aux éditions Panini Comics et qui nous présentent un petit peu le renouveau de nos héros mutants avec le synopsis que voici. La révolution mutante est en marche. Charles-Xavier, Magneto et leurs complices ont conçu un projet incroyable qui vous bouleversera le destin de l'Homo supérieur. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Découvrez ces épisodes signés Jonathan Hickman, Pepe Larraz et Herb Silva qui resteront sans nul doute dans les annales. Et je confirme, hein, parce que l'histoire, déjà, il faut s'accrocher. Hein, c'est du Jonathan Hickman, pour vous situer un petit peu. Jonathan Hickman, c'était un petit peu le superviseur du retour des Avengers sous l'ère Marvel, non? Et lui, ses récits, ce sont des récits de comics, hein, on va pas s'en cacher. Et ça lande beaucoup quand même du côté de la science-fiction parce que franchement, waouh, ils sont d'une complexité par moment et il faut s'accrocher. Mais lorsque l'on arrive à la finalité du récit, ben on peut que se dire waouh, mais c'est une histoire de dingue qui nous a conçu là, puisque c'est très profond, ça va très loin, il y a de très bonnes idées. On retrouve un petit peu ce côté. Les mutants, à la base, les mutants, on ne peut pas se le cacher, hein, mais il y avait une part aussi de discrimination qui était dénoncée, les mutants qui étaient toujours pourchassés par les humains, bien que les mutants, les X-Men de Charles Xavier, ils faisaient toujours le bien, justement, pour leur père, leur congénère humain, hein, en les sauvant toutes les 5 minutes de Magneto, par exemple, ou d'autres menaces. Et ouais, ça a dénoncé un petit peu le racisme, la différence, le rejet de la différence, ce genre de choses. Et ici, mais le récit va encore plus loin, il va au-delà de ça, puisque je vais pas vous en spoiler toutes les finalités, mais au final, les mutants, ils en ont un petit peu marre. Du coup, ils vont décider de créer leur propre nation et d'inverser les rôles, mais il faut comprendre que stop, on en a assez, maintenant il va falloir un petit peu nous accepter. Et franchement, c'est super bien amené, moi je trouve. En plus, c'est super bien dessiné, hein, que ce soit Pepe Larraz ou Herbe Silva, les planches sont superbes. Franchement, ce sont 4 beaux petits bijoux, hein, que je vous recommande grandement. Donc, comme j'ai pu vous le dire, ça peut se trouver aux éditions Panini Comics. Hein, c'est des soft covers, ce sont en gros des fascicules en couverture souple, souple, rigide, hein, mi-rigide, quoi. Mais franchement, c'est sympa, ça fait son petit effet et ça fait plaisir de voir de bonnes histoires des X-Men. Surtout que la suite Dawn of X est de tout aussi bonne qualité et ça fait plaisir de prendre plaisir à de lire du X-Men. Du coup, si ça fait longtemps que vous vous êtes intéressé par les X-Men, que vous cherchez un bon point de départ, ben je pense que House of X, Power of Ten, c'est un bon début, une bonne accroche pour se lancer dans l'aventure mutante de Marvel. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas trouver? Qu'est-ce qu'on trouve pas de nos jours sur le Internet? Mais oui, là, vous avez eu droit à une cover, hein, une reprise du thème de la série d'animation X-Men des années 92 par l'orchestre cinématique. Donc, vous pouvez trouver ça sur le YouTube sous le nom de X-Men The Animated Series Theme Epic Version par l'Orchestra Cinématique. Donc moi j'en dis pas plus sur les X-Men. Bon, c'était vrai que c'est pas une recommandation, une suggestion, lecture horrifique hein, sur l'été de saison, mais bon, à ce niveau-là, je vous recommande le livre Nosferatu de Joe Hill, hein, le fils de Stephen King, et notamment de regarder la série du même nom, Nos4A2, hein, qui est de tout aussi bonne qualité. C'est, ouais, franchement sympa. Mais pour revenir rapidement sur les X-Men, ben, aussi, si vous êtes amateur de science-fiction, ça peut largement faire le staff, parce que comme j'ai pu le dire, Jonathan Hickman, il a vraiment une plume SF, et là ça mêle, si vous aimez X-Men et science-fiction, banco. Bon, moi je pense que je vais pas plus me tarder que ça hein. On va pouvoir passer au premier avis du mois. L'avis sur
Knight of Badass Dome de Joe Lynch. Coronavirus. Synopsis. Des fans de jeux de rôle invoquent un démon par erreur et doivent l'affronter. Waouh. On va aller très loin avec ça. Chut. Calme-toi. À côté, le synopsis qui propose un certain site de screaming du nom de Shadows. Le synopsis, c'est pour se remettre d'une déception amoureuse, Joe est entraîné par ses amis Eric et Ung dans un jeu de rôle grandeur nature. Malheureusement, les joueurs vont devoir devenir les héros qu'ils doivent jouer lorsque l'un d'entre eux invoque par erreur un démon. Bon, sur les dernières lignes, j'ai improvisé parce que c'est pas ça. Mais bref, c'est déjà un petit peu plus consistant.
In a world, within our world, they've created a world unlike any other world.
You bastard.
Where are we?
Tis the kingdom of Eliphaz, my naive friend.
That looks terrible. My three-year-old nephew can make a better map. He's got learning disabilities.
You shanghaied me and dressed me.
Adventuring is exactly what thou needst.
Needst is not a word.
Where we are, it is.
Thou hast been recruited to fight at the epic battle of Evermore.
Welcome to the fields of Evermore!
You guys do actually look slightly badass.
Eric's about to level up to Grand Sorcerer.
I'm packing an ounce of killer shrooms.
And there be monsters in need of pummeling.
I'm in.
Huzzah!
But for these make-believe heroes...
Guys, pentagrams? Now, we don't roll that way here, all right? This is the LARP, not the Wicker Man. We can cosplay.
Something truly evil... ...is taking their fantasy... ...to a whole new reality.
You just summoned a succubus from hell.
Sorry. Time has come to earn our valor, people.
Use the book to send that bitch back wherever she came from.
I don't know how. I just picked a page at random earlier.
Pick another page and hurry up.
I covet only one thing. Honor and victory!
Wait, verily, that is two things.
Tis that of the witch.
I'm out of here.
How awesome was that?
Like an A-plus, motherfucker!
Lightning bolt! Lightning bolt!
Donc le film, en soi, il commence par l'introduction du bouquin en question. Le bouquin qui va avoir un rôle prépondérant. On suit déjà une équipe de rôlistes dans grandeur nature, dans une forêt, qui utilise un sort étrange Bon, il se passe pas grand plus, mais on voit rapidement qu'ils ont certains griefs avec une équipe de paintballers, va-t-on dire, hein, et qui vont un petit peu leur causer quelques tracas. Bon, ils vont bien s'en sortir, mais malheureusement, un des gars de l'équipe adverse des paintballers va se retrouver avec le bouquin gravé, enfin, des écritures gravées sur le visage, et ça va un peu se conclure ainsi. Ensuite, on va retrouver le personnage de Joe qui est joué par le frère Stackhouse de True Blood, être plaqué par sa copine. Et déjà, on sent qu'il est un petit peu amateur de bon métal, ce genre de choses. Et là, ben, ses potes, suite à cette déception amoureuse, ils se disent « Bon, ben écoute, on va te faire passer un bon moment, tout ça. Sniff un peu là-dedans, souffle un peu là-dedans. » C'est ce qu'il fait. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas vu venir ben, le coup d'être embarqué pour participer à un jeu de rôle grandeur nature. Et là, ça va être un gros bordel. Il y a pas d'autre mot. Au début, il est un petit peu là. Ah, je suis pas trop dans le jeu, tout ça. Puis c'est pas trop. Allez, ça va te remonter le moral. Bon, d'accord. Ah, mais au fait, le maître du jeu, c'est l'autre connard. Oh putain, c'est vrai. Du coup, l'autre connard, Ronnie, ben, il fait « Putain, il y a merde, il y a Joe ?» Bon, ben, si vous voulez qu'il participe, va falloir que vous fassiez un sort de je sais pas quel niveau pour pouvoir le convoquer dans la partie. Oh, ok, pas de souci. On va faire le truc. Le problème, c'est qu'ils le font avec le bouquin chelou. Mais en faisant ça, ils vont convoquer un démon, malheureusement. Et là, ils s'en doutent pas. Ils arrivent à convoquer Joe, pardon. Ils sont contents. Il y a Ronnie qui les suit un petit peu à droite ou à gauche. Il est un petit peu relou, Ronnie. Hein. Bon, ils font équipe avec Gwen, qui est jouée par Summer Glau, qu'on a pu voir dans Firefly, Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Enfin bref, il y a beaucoup d'acteurs de série dans cette série. Hein. Non, il y a beaucoup d'acteurs de série dans ce film. Ça marche mieux dans ce sens-là. Mais ouais, du coup, ils avancent ensemble. Au fur et à mesure des différentes péripéties que propose Ronnie. Et à un moment, ben, on se rend compte qu'ils doivent se séparer pour continuer à avancer, parce que bon, comme ce sont tout bons rôlistes, ils ont bien entendu oublié des trucs hein, dans leurs effets personnels, dans leur voiture, du coup ils se séparent, un groupe va à la voiture, un groupe continue de jouer, mais le problème, le groupe qui est censé continuer à jouer, ben, il se fait malencontreusement poutrer la gueule ben, par le démon qui a été malheureusement convoqué. Et ce démon va faire des carnages tout du long de la partie. Je vais pas en dire plus sur l'histoire, grosso modo c'est ça, mais c'est dur vraiment de pas spoiler le film tellement... Tout s'enchaîne, mais naturellement. En fait, moi, lorsque j'ai regardé, le film, de par son synopsis, tout ça, moi, je m'attendais à voir un film un petit peu bateau. Enfin, un film, une comédie horrifique bateau. Un petit peu, j'ai pas d'exemple, mais vrai. Là, dans l'instant, j'ai pas d'exemple. Si j'en ai, ça s'affichera en dessous, mais... Je m'attendais à pas un truc grandissime, hein, juste à un truc qui me permettrait de débrancher mon esprit avec Peter Dinklage, Monsieur Tyrion Lannister de Game of Thrones. Je pensais regarder ça et débrancher mon cerveau. Au final, comment dire ? Tu me coupes si c'est pas ça, hein, mais pour moi, c'est presque une sorte de dommage aux amateurs de jeux de rôle. À la culture geek en général et au métal en général. Puisqu'au final, ça se moque pas. C'est pas du second degré. Et franchement, ils vivent le truc. On sent que... Enfin, je sais pas du tout si c'est le cas. Hein, mais on sentirait presque la passion dans chaque minute du film. Que ce soit au moment où il y a de l'aspect jeu de rôle, du métal. Et j'en passe, on sent la passion. Même les acteurs, enfin, j'ai pas vu de surjeu. On voit par exemple, il y a une séquence où il y a Summer Glau qui a fait de la danse, hein. Soit dit en passant, hein. Elle s'est fait remarquer parce qu'elle a joué dans un épisode de danse dans Angel saison 3. J'ai plus le nom d'épisode, mais elle a joué dans Angel saison 3, elle jouait une danseuse. Mais lorsqu'on la voit, un moment dans la forêt, faire face à un groupe ennemi en train de danser, enfin, elle danse pas, mais elle fait des mouvements tellement bien chorégraphiés. Pour aller d'ennemi en ennemi, c'est des pas de danse. Elle les fait vraiment super bien. C'est beau à voir. Tout le film est beau à voir. Il est kitsch. Mais c'est du bon kitsch. Ça pue la passion. Et je parle pas du final. Mais le final. Le final. Si vous aimez le métal, Final Fantasy, les invocations, Tyrion Lannister, je vous spoil pas plus, mais pff, c'est bon, hein. Allez acheter votre rouleau de soupalin, vous allez vous branler tout de suite, hein. Vous allez jeter dès les premières minutes du truc, hein. Il est fantastique ce film. Je sais pas, il date de 2013, je vois, mais moi je regrette de pas l'avoir vu avant. Je suis content de l'avoir vu maintenant. Mais waouh, merci Shadows, quoi. Enfin, c'est... Moi je m'en cache pas, hein, je suis geek, hein, vous le voyez derrière, hein, j'adore le métal, ce genre de choses, mais là ça associe tout ce que j'aime. Je sais pas, mais ouais, moi c'est banco, moi ce film là, je pense que je pourrais me le regarder et re-regarder. Faudrait peut-être se le choper en DVD à l'occasion, hein. Comme ça on l'a en physique, on sait qu'on l'aura toujours avec nous, mais waouh! Un coup de cœur, si vous êtes amateur, donc oui, de RPG, de jeux de rôle grandeur nature, de médiéval, de métal, d'horreur, de comédie horrifique, de Tyrion Lannister, de Summer Glow, du frère Stackhouse, et j'en passe, hein. Encore une fois, il y a plein d'acteurs de série dedans, mais allez-y. Knight of Bodom, pour moi, c'est un sans faute. J'ai rien à retirer dessus, hein. Il est superbe.
Die! a blazing funeral pyre for you.
C'était Your Heart Sucks My Soul de Bill McCreary featuring avec Brendan McCreary et Brendan Small, la chanson finale que l'on peut entendre dans Knights of Badassdom. Franchement, si vous avez vu le film et que vous vous régalez comme moi, vous tapez juste Knights of Badassdom sur YouTube et vous pouvez tomber sur la séquence finale, hein. Ça s'appelle Demon Banishment Song et franchement, c'est un régal à voir et à revoir. Faudra que je me le refasse ce film, il est franchement superbe. Donc là, ce que vous avez pu entendre, c'est un extrait remasterisé de l'épisode 51 de Schaffwiener. Schaffwiener, ma chaîne YouTube où je parle justement, où je vous partage ma passion du cinéma et de la pop culture. Et justement, je n'en dis pas plus, mais on vous réserve très certainement de prochaines surprises dessus à suivre. Mais je vous en parlerai peut-être lors de la prochaine émission, lorsque on sera venu à bout de cette idée que nous avons dans notre esprit. Mais je n'en dis pas plus, donc je me répète un petit peu, je dis souvent ça. Enfin bref, c'est parti pour le second avis. L'avis sur You Might Be the Killer de Brett Simons, ou de son titre, comme j'arrive à le voir sur un site qui commence par Halo et qui termine par ciné, Scary Camp. À se demander d'où sortent des fois ces titres en français. Enfin bref, je vais donc vous lire le synopsis de ce film qui est sorti à la base le 19 novembre 2019 en VOD par chez nous. Une grande partie des moniteurs du camp d'été Camp Queer Vista a été massacrée par un mystérieux tueur portant un masque en forme d'écorce d'arbre. Sam, le propriétaire des lieux, a échappé au psychopathe en courant à travers bois. Réfugié dans une cabine téléphonique, il tente désespérément de joindre la police. Éloigné de tout, Sam décide d'appeler son ami Chuck, une passionnée de films d'horreur qui travaille dans un vidéoclub, pour l'aider à trouver l'identité du tueur. Bien que souffrant de trous de mémoire, Sam lui raconte les meurtres qu'il a pu voir. Encore un synopsis made in Halo Ciné. Ouais, bon, bref, faudra vraiment que je me pose la question de savoir où est-ce qu'ils nous les pondent, ces trucs. Mais vous allez le voir, comme je vais vous le présenter dans la seconde partie de la vie, pour la moitié des choses que vous avez présentées là, c'est pas du tout ça.
Chalk!
Sam?
I'm really scared. Maybe you can help me out.
Being responsible for an entire summer camp?
Nature's our nature.
What could possibly go wrong?
Everything started out so great.
And now there's this crazed killer roaming the campground.
Wait, really?
Everyone is dead.
I mean, that sometimes happens.
Especially the camp counselors.
Like, is it an old camper back for blood?
How do you know that? How does knowing who it is help me not die?
Figuring out what they want could help you not die.
Smart.
Sam?
I hate to ask you this, but are you sure you're not the killer?
Alors, vous avez pu entendre la bande-annonce de film. Maintenant, je vais vous présenter l'histoire du film. Petite nouveauté, c'est que, comme vous avez pu le remarquer, bon, c'est une redite d'une des vidéos que j'avais utilisée pour le Schaffwiener que vous avez pu entendre précédemment, mais ici, maintenant, vous n'entendrez plus la sirène à spoiler parce que j'ai pas plus spoiler, hein. Je vais plus aller profondément dans les détails de l'histoire, hein. Je vais vous faire reconter l'histoire un petit peu là rapidement, tout en vous gardant le maximum de surprises et en évitant de spoiler au maximum. Donc c'est parti, plus de sirène à spoiler. Alors, Pour l'histoire du film, grosso modo, oui, on va suivre ce cher Sam qui est vraiment en panique et qui se demande ce qui lui arrive. Suite à des « oh mon Dieu » répétitifs, il se retrouve piégé dans une cabane avec pour seul allié son téléphone portable, faute de pouvoir réussir à joindre le chef de la police locale à qui il laisse un message, mais il contacte son ami Chuck. Du coup, non, il se retrouve pas dans une cabine téléphonique, il est dans une cabane avec un téléphone et il appelle son ami Chuck. Donc, il l'appelle, son ami Chuck qui est gérante pas d'un vidéoclub, mais d'une sorte de grande boutique, un petit peu... C'est pas du multimédia, mais c'est une sorte de geek shop, quoi. On peut y trouver des comics, des jeux vidéo, des films et tout ça. Enfin, c'est pas qu'un vidéoclub. Bref, donc, il appelle sa pote et lui demande conseil. Et du coup, sa pote lui dit, bon, mais attends, excuse, mollo, hein, on va revenir un petit peu au fur et à mesure des choses. Tu vas m'expliquer et on va essayer de démêler le truc, le schmilblick, pour voir ce qui a bien pu t'arriver. Donc au final, on remontera au fur et à mesure des interventions, des flashbacks plus ou moins loin, et de manière un petit peu décousue, parce qu'il y a tout du long du film une sorte de compteur qui présente le nombre de morts, le nombre de moniteurs qui sont morts, et des fois on peut passer du nombre 10 au nombre 6, au nombre 2, au nombre, pour revenir au nombre 7, pour revenir, repartir au nombre 4, enfin, c'est vraiment décousu, mais au final c'est une construction très intéressante qui fait que le spectateur il doit tout de même rester attentif tout du long du film, bien que l'on soit dans le principe d'une sorte de comédie horrifique. Donc oui, on va avoir droit à cette sorte d'enquête en liaison entre Sam et Chuck. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment du récit de Chuck, de Sam, pardon, ben, y a Chuck qui est campé par Allison Hannigan, qui va Willow dans Buffy contre les vampires, qui commence à se dire, mais attends. Ça serait peut-être pas toi le tueur, d'où le You My Base Killer. Sam, il va commencer à se poser des questions et il va commencer à raconter l'histoire du Dom Masque. Et je vais pas en dire plus parce que au fur et à mesure qu'il va compter ce récit-là, on va peut-être comprendre certaines choses et comment les choses ont pu évoluer dans le sens où elles ont pu évoluer et justement par rapport au point où on retrouve Chuck au tout début du récit. Sam, tout début du récit. Désolé Chuck, d'entendre Chuck, ça me fait penser à essayer de Chuck. Enfin bref. Mais du coup, on se retrouve vraiment face à un récit qui est décousu, mais auquel, comme j'ai pu le dire, qu'il faut s'accrocher, et qui n'est pas désagréable, puisque au final, tout s'enchaîne assez rapidement. Et oui, c'est pas désagréable. Tout s'enchaîne rapidement, les gags s'enchaînent. Après, bon, on n'est pas face à un humour aussi poussé que Night of Badass Dom, je trouve, puisque le film, bien qu'il soit amusant, rigolo, il se regarde, mais on n'est pas sur le même acabit. Là, c'est vraiment de la comédie horrifique qui joue pas mal sur les films des années 80-90 de type slasher, les films de slasher, ces films où des jeunes se font poursuivre par un tueur en série type Jason, hein, parce que là, c'est clairement la série des Vendredis 13 qui inspire en lui-même ce film. Mais oui, le film s'inspire de ça, en joue, en rigole, et bien qu'il fasse le taf, oui, il est bien, on va pas s'en cacher, hein. On peut peut-être lui reprocher un petit manque à un moment, mais c'est vraiment le temps d'une séquence un petit peu plus explicative et qui va être moins soutenue que le début du film, parce que ça se pose un petit peu plus ce genre de choses, mais sinon en soi il est très appréciable et il surprend même, hein, parce que la finalité du film avec la final girl, hein, la fille finale, la survivante finale, on voit pas ça vraiment arriver, hein. C'est très bien amené, tout comme les quelques minutes finales qui proposent un retournement de situation tout aussi inattendu et tout aussi appréciable. Donc ouais, Fran Kras, il est très bon dans le rôle. Hein. Alison Hannigan aussi, ça fait plaisir de les revoir puisque c'est des acteurs que l'on a pu retrouver sous l'égide, sous la bannière de Joss Whedon, que ce soit dans Buffy contre les vampires pour Alison Hannigan et Dollhouse pour Fran Kras, sans penser aussi également à ce film d'horreur comédie un petit peu barré qui était sympa, La cabane dans les bois aussi. Enfin, ouais. Avec du recul, on retrouve un petit peu l'esprit, La cabane dans les bois. C'est vraiment du second degré. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Faut vraiment débrancher son cerveau avec ce film. Donc, ouais, moi, je vous le recommande. Hein. Surtout que là, en cette période, ben oui, mois d'octobre, Halloween, tout ça. Ben, moi, je trouvais sympa de vous présenter des films un petit peu plus à tendance comédie horrifique que horrifique. Ça permet un petit peu de changer, de voir d'autres œuvres dans le genre. Hein. Et puis bon, si vous avez apprécié Knight of Badass Dom, You Might Be the Killer, vous pouvez tout aussi bien vous regarder Tucker et Dale Fight le Mal. Et j'en passe. Hein. Il y en a vraiment des très, très bons dans ce registre-là. N'hésitez pas à me les demander par mail. Hein, showtime.radio@gmail.com. Ça sera avec plaisir que je vous en ferai part. Bon, ben moi, je pense avoir tout dit ce que j'avais à vous dire, hein, sur le film. Hein. Donc, on va passer à une petite musique. De Amarante Et oui, c'est vrai que il y aurait eu tellement aussi à dire sur You Might Be the Killer. J'ai pas parlé spécialement du rapprochement qu'on pourrait faire entre le côté masque qui parle justement aux personnes qui est le tueur, hein, à la personne qui est le tueur, et le rapport qu'on peut en faire justement vis-à-vis du film The Mask, hein, avec Jim Carrey, parce que là on retrouve justement le masque qui oblige la personne à le porter, qui l'oblige à commettre des actes un petit peu mauvais, ouais, un petit peu comme le masque dans les comics, hein, parce que à la base The Mask c'est un comics, mais j'en dis pas plus, hein, je pense que je vais pas plus m'étaler davantage, hein, j'ai dit le gros de ce que j'avais à dire sur le film ainsi que le gros de ce que j'avais à dire tout du long de l'émission, mais oui, hein, vous pouvez maintenant, vous l'avez compris, me retrouver autant sur Radio Larzac que sur YouTube, mais ça je vais vous désamorcer la chose dans la fin de l'émission, car oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce premier épisode de la saison 8 de Showtime vous aura plu. Ah, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à vous, à vous enregistrer toute cette émission, bon, qui n'est plus en direct, hein, vous avez pu le comprendre, mais oui, c'est un peu le cadre du faux direct, hein, puisque je laisse les petits pains de voix, ce genre de choses, et puis bon, j'avoue, je triche un petit peu, hein, pour un des deux avis que je vous présenterai, j'utiliserai quelque chose que j'ai pu présenter, un film que j'ai pu présenter pour l'émission du Chafrineur que je présente sur YouTube, mais en même temps, tout ce qui vous est présenté également autre part dans l'émission, c'est de l'inédit, donc comme ça, moi, ça permet aussi de mettre en avant ma chaîne YouTube et aussi l'émission, ce que je manquerai pas à faire dans mes prochaines vidéos. En tout cas, si vous avez quoi que ce soit à dire pour la suite, avis, suggestions, et j'en passe, si vous voulez même discuter, ça sera avec plaisir. Vous voyez bien un petit mail à showtime.radiolarzac@gmail.com ou showtime@radiolarzac.org. Je vous remercie de m'avoir écouté, auditeur. Je remercie Radio Larzac de continuer à me diffuser, de mettre en avant le mainstream. Je rigole. Mais j'en dis pas plus. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Ici Camille Lehan, comme je suis content de vous retrouver. Hein? Surpris de m'entendre? Je suis pas dans la bonne émission? Bon, vous savez, on n'est plus à ça près. Le monsieur qui écrit tout le tralala s'est dit que ça pourrait être sympa de vous teaser tout le projet avec une voix familière. Puis bon, on verra bien. Peut-être que ça vous donnera envie d'écouter la précédente saison en podcast sur le site de Radio Larzac. Car oui, toute une nouvelle saison se profile en 2021. J'espère que vous serez au rendez-vous pour cette nouvelle aventure. Puis, qui sait, peut-être qu'un épisode pourrait se cacher à la toute fin de l'émission du monsieur. Allez, je vous retiens pas plus. Honoré Hill revient bientôt sur vos ondes. Honoré Hill revient bientôt sur Radio Larzac.